Bonjour. Une ordonnance post-Covid qui permet aux patrons de licencier à bas coût. La chasse aux abus est ouverte. Alinéa du géant Muliez dans le collimateur. La rentrée politique du ORN, OLR aussi, au Port Marly dans les Yvelines avec à droite François Baroin. Le vrai faux suspense sur sa candidature. On en reparle avec votre invité tout à l'heure, Eric.
Oui, il s'appelle Damien Abad. Il est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Question sur un mouvement qui se cherche une incarnation pour la présidentielle de 2022.
Des manifestations en Biélorussie. Des étudiants ont voulu chanter la Marseillaise. Tata Yo-Yo a levé son grand chapeau. Annie Cordy est morte hier, elle avait 92 ans. Et puis à la page des sports, du Tour de France, du foot et de la lutte antidopage.
France Inter.
Une ordonnance post-Covid qui pourrait virer à l'arnaque. Elle permet aux patrons d'entreprise, en redressement judiciaire, de se porter candidat à sa propre reprise et de licencier une partie des salariés à moindre coût. La tactique est-elle en toc? En tout cas, Alinéa compte bien en profiter. L'enseigne d'ameublement, propriété de la galaxie Muliez, s'est positionnée et propose de ne garder qu'un tiers des employés. Un millier de postes sont dans la balance. Le tribunal de commerce de Marseille a examiné la demande cette semaine, mais l'affaire Maxime Debs prend une tournure politique.
Sur les 17 magasins Alinéa sur 26 qui devraient être abandonnés, celui de Villars dans la région stéphanoise. Interloqué, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, étiqueté Les Républicains, a récemment écrit au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
Ce contre quoi je me bats, c'est cette disposition du gouvernement qui permet à un actionnaire de déposer le bilan, de laisser des centaines de salariés sur le carreau et puis de repartir comme si de rien n'était. Que cela se fasse de façon à économiser les indemnités de licenciement, tout ça sur le dos du Covid, effectivement, ça me choque. À Saint-Étienne, c'est 75 personnes qui vont en pâtir alors qu'elles participent à la richesse du groupe Muliez depuis 20 ans maintenant.
L'élu stéphanois qui demande au gouvernement de corriger les effets induits et sans doute involontaires de cette ordonnance. Il faut selon lui y revenir, sans quoi les cas de ce genre vont à coup sûr se multiplier.
Vous savez, l'ordonnance, elle a été pondue en 8 jours après le déconfinement le 20 mai. Donc je pense qu'il peut effectivement corriger le tir très rapidement. C'est une question de volonté politique.
Interrogé, Bercy répond que la situation de crise actuelle inédite oblige à trouver des repreneurs dans des délais extrêmement courts et que dans certains cas, dont le nombre devrait rester faible, veut croire un conseiller, les dirigeants en place sont parfois les plus pertinents pour formuler une offre. Rappelant également que le ministère public peut aussi très bien exercer son recours suspensif s'il estime qu'il a des raisons de s'y opposer.
Et sur le cas d'Alinéa, la réponse du tribunal de commerce est attendue pour le 14 septembre. Le Covid qui continue de galoper, près de 9000 nouveaux cas en 24 heures hier, mais le nombre d'hospitalisations et de cas graves, lui, reste quasiment stable. 473 personnes en réanimation hier, c'est plus que la veille, mais c'est moins que les jours précédents. En attendant, les consignes, elles ne bougent pas d'un pouce, et les jeunes qui dorment à l'internat en savent quelque chose. Il faut vivre jour et nuit, ou presque, avec le masque. C'est un reportage au lycée Don Bosco en Mayenne, avec Sarah Saltiel-Rago.
Salle de classe, self, couloir et chambre, les règles sanitaires sont partout pour les lycéens internes de Don Bosco. En terminale, Baptiste découvre cette nouvelle organisation.
Déjà, on est deux par chambre. On n'est plus chambre de 5-6. Et on doit mettre le masque obligatoire pour aller faire nos douches, nos toilettes, tout ça. Même dans les couloirs. Et puis, pour aller voir la chambre des copains et tout comme ça, il faut mettre le masque.
Le masque tout le temps et partout. Il faut donc bien faire avec.
La journée, l'avoir, surtout ces chaleurs-là, comme il fait beau, c'est un peu lourd à la fin, mais il faut s'habituer.
Circulation, zone avec ou sans masque, il a fallu repenser le fonctionnement, explique Catherine Matté, éducatrice de l'internat des filles.
J'ai fait un sens de circulation obligé et chaque élève doit porter son masque dans les allées. Dès qu'elle se déplace, de toute façon, c'est obligatoire. Et nettoyage des mains à l'entrée du dortoir. C'est pas simple, ça a été assez difficile, mais bon, les élèves jouent le jeu.
Malgré ces contraintes, le pli est pris pour le directeur de l'établissement, Michael Angin.
Ils avaient déjà pris quelques marques en revenant pour certains avant les vacances. Malgré tout, on est assez agréablement surpris de voir leur adaptation. Je pense que c'est rentré aussi dans les mœurs.
À l'étroit, dans un bâtiment qui commence à être vétuste, les élèves auront bientôt plus d'espace. Le nouvel internat en construction devrait ouvrir au printemps.
C'était sa dernière boisson nutritive hier soir et un peu après minuit sur son compte Facebook depuis son lit médicalisé, Alain Coq déclare.
À partir du moment où je vais me coucher, j'arrêterai de m'hydrater. Après, ça commence. Le chemin de ma délivrance commence et croyez-moi, j'en suis heureux. Ainsi va la vie.
Ainsi va la vie. Atteint d'une maladie dégénérative incurable et douloureuse, à 57 ans, Alain Coq a décidé de cesser son traitement, d'arrêter de s'alimenter. Il va se laisser mourir en direct, un acte militant pour faire avancer le débat sur la fin de vie. Après la publication du journaliste Valentin Gendreau, infiltré dans la police du 19e arrondissement de Paris pendant 2 ans, le parquet de Paris ouvre une enquête, notamment en ce qui concerne les violences et les passages à tabac dénoncés dans le livre sur des migrants ou des gardés à vue. L'IGPN, la police des polices, va tenter d'identifier les auteurs et les faits susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale.
C'est aussi un week-end de rentrée politique.
Le RN à Fréjus dans le Var, avec ce matin dans le journal Le Parisien, Marine Le Pen qui évoque son départ de la présidence du parti, peut-être pour le congrès du printemps, histoire de mener, dit-elle, au bout sa candidature pour 2022. Et puis, les LR, au Port-Marly, dans les Yvelines, moment clé du jour, François Baroin pendant 2 heures face aux militants de la droite. Le Figaro croit savoir ce matin que le maire de Troyes a renoncé à être candidat à la présidentielle, mais qu'il devrait le faire savoir seulement en octobre. De quoi décevoir tous ceux qui misaient sur lui, Élodie Forêt.
Parmi les cadres, après l'avoir tant espéré, ils sont de moins en moins nombreux à croire en une candidature de François Baroin. C'est fini, lâche un ténor. Les signaux sont très négatifs, soupire un autre. Même Nicolas Sarkozy, qui l'avait encouragé, n'y croirait plus. Comparant récemment auprès de ses interlocuteurs, le maire de Troyes a une voiture sans essence. L'avis de l'ancien président qui aurait fortement impacté François Baroin et qui aurait fait vaciller une volonté déjà fébrile. Alors annoncera-t-il sa décision aujourd'hui? Non, font savoir ses proches. Lui qui aime être maître de son temps garde toujours le même calendrier. Une réponse cet automne après les sénatoriales. Il expliquera ses choix à ce moment-là. Mais cet après-midi, face aux élus et jeunes militants, François Baroin sera forcément acculé, dit un député. Il ne pourra pas toujours éluder les questions.
Élodie Forêt, nouvelle manifestation sous tension aujourd'hui aux États-Unis avec des affrontements qui se multiplient entre les partisans du mouvement Black Lives Matter et les militants d'extrême droite de Patriot Prayer. C'est dans ce contexte que Donald Trump a décidé de supprimer les formations contre le racisme dans l'administration fédérale. De la propagande clivante et anti-américaine, ce sont ces mots. Donald Trump encore, qui refuse de croire les conclusions des médecins allemands. Pas de preuve, selon le président américain, qu'Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine, toujours dans un état grave à Berlin. Pas de preuve donc pour Donald Trump qu'il ait été empoisonné. Les images se suivent et se ressemblent en provenance de Biélorussie. Des manifestations anti-Loukachenko, violemment réprimées par les forces spéciales, ces hommes en cagoule noire. Comme hier, par exemple, sur le campus de Minsk, où des étudiants ont osé chanter la Marseillaise dans le hall de la fac. Correspondance depuis Moscou, Claude Bruyot.
C'était sans doute comme un signal pour eux. Dès que l'hymne français a été entonné, ils sont sortis de leurs autocars sans plaque d'immatriculation pour tenter d'arrêter tous ceux qui avaient chanté la Marseillaise. Choquée par tant de brutalité, une jeune élève de deuxième année raconte sur le site d'un média indépendant qu'elle a échappé de justesse à l'arrestation.
Ils ont essayé de m'amener aussi. Ils ont arrêté des élèves de quatrième année. Et l'administration de l'université n'a absolument rien fait. Il y avait une vingtaine d'aumônes pour s'en prendre brutalement à quelques étudiants sans défense.
Cette scène ponctue une semaine de contestation universitaire à Minsk notamment, au cours de laquelle des centaines d'étudiants ont dit eux aussi leur rejet de la présidence Loukachenko. Ils ne veulent plus de celui qui, il y a quelques années encore, était perçu comme l'homme providentiel du pays, soucieux alors de barrer la route au capitalisme sauvage en préservant certains acquis sociaux de l'époque soviétique, une époque de référence durant laquelle, sans doute, le jeune Alexandre Loukachenko, comme des millions d'élèves en leur temps, devait chanter sur les bancs de leur école, pour ce qu'elle avait de révolutionnaire, une certaine Marseillaise. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
C'est un drôle de festival du film Made in USA qui s'est ouvert hier soir sans les Américains. Deauville comme on ne l'a jamais vu, avec la projection aussi de 9 films qui auraient dû être présentés à Cannes cette année. Le Covid est passé par là. Elle aussi, Hollywood lui tendait les bras, mais son mari n'était pas d'accord. Alors elle est restée en France et elle a enchaîné les succès. Une joie de vivre infatigable. Annie Cordy est morte hier à 92 ans. 70 ans d'une carrière éclectique, du musical à Tata Yo-Yo, du cinéma, le chanteur de Mexico ou encore le passager de la pluie de René Clément, à la bonne du curé, comme le résume Michel Drucker, cette Belge pétillante savait tout faire.
Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ?
Eh bien, dis-le que je bois trop.
Tu bois trop, mon.
Je bois pour oublier.
Oublier quoi ?
que les hommes sont des salauds.
Et blablabla. Mais moi, je lui ai dit, non, 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 merci. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est de bien m'amuser et de me faire aimer par celui qui me plaît.
Pas de saloperie, hein. Pas de mensonge. La vérité. Écris. Dis-leur que j'attends. Que je ne bougerai pas d'ici.
Qui n'a jamais peur.
Et blablabla. Mais moi je lui ai dit, non, 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 merci. Moi ce que je veux dans la vie, c'est de bien m'amuser et de me faire aimer par celui qui me plaît.
On a le cœur tout content, pom 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 pom, la vie est belle. Du moment qu'on ne fait rien, c'est fou comme on se sent bien. Pom 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 le dimanche madame.
Annie Cordy, artiste populaire et solaire pour toute une génération. Merci madame, tweet hier soir le Premier ministre Jean Castex. La Belgique aussi a rendu hommage à sa plus célèbre ambassadrice. Et pour le montage, le medley comme on dit dans le jargon, merci aux mains d'or, notre assistant Benjamin Ducy.
C'était très bien fait. À 8h11 sur France Inter, on passe au sport.
Et on commence sur la route du Tour. Hier, entre Millau et Lavaur, victoire du Belge Wout van Aert avec le Britannique Adam Yates toujours en jaune. Aujourd'hui, première étape dans les Pyrénées avec un col mythique sur le chemin. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Le col de Manté qui rappelle la légende de l'Espagnol Luis Ocaña.
Oui, dans la descente de ce col, s'est écrite l'une des pages de l'histoire du Tour. Sur place, une plaque est accrochée à la paroi. On peut y lire « Lundi 12 juillet 1971, sur cette route transformée en torrent de boue par un orage d'apocalypse, Luis Ocaña, maillot jaune, abandonnait tous ses espoirs contre ce rocher. Les images témoignent de la violence de la scène. Ocaña est à terre, tordu par la douleur. À la poursuite de Merckx, il vient de chuter quand le coureur néerlandais Zotmelk le percute à près de 40 km/h. Ocaña ne se relèvera pas de fracture, mais il est évacué en hélicoptère. Le lendemain, en solidarité, Merckx refuse de revêtir le maillot jaune. L'équipe titre le Tour foudroyé. Car chez tous ceux qui se languissent de voir le cannibale déboulonner, Ocaña avait levé un immense espoir. Dans les Alpes, à Orcières-Merlette, le 8 juillet, au terme d'une chevauchée de 60 km, le fier grimpeur espagnol relègue Merckx à près de 9 minutes. Le rêve va durer 3 jours. Cette année, pour la première fois depuis 49 ans, Orcières-Merlette et le col de Manté sont au programme d'un même tour. L'histoire ne repasse pas les plats, mais cet après-midi, on se contenterait volontiers des miettes.
Eh bien, on surveillera cela de près avec vous, Jérôme Cadet, miettes ou pas, en direct de Cazères-sur-Garonne avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Étape donc Cazères-Loudenvielle, départ à 13h35. Le sport, c'est aussi le foot, avec d'abord les Français qui affrontent ce soir la Suède, Ligue des Nations, coup d'envoi à 20h45. Et puis la Ligue professionnelle qui a obtenu gain de cause hier. Son nouveau protocole contre le Covid a été assoupli et validé. Désormais, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs sur 30 seront testés négatifs. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'inverse, 3 cas positifs et toute la rencontre était en sursis. Enfin, notre coup de projecteur ce matin, dans cette page sport, on parle de l'Agence mondiale anti-dopage. Bonjour Alexandre Berthaud.
Bonjour Hélène.
L'organisation internationale menacée de disparition avec une histoire complexe au cœur du conflit. C'est original, tiens, la rivalité entre les États-Unis et la Russie.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette Agence mondiale antidopage. On peut l'appeler AMA. C'est un organisme créé suite à l'affaire Festina sur le Tour de France 1998. Vous rappelez-vous la révélation d'un dopage à grande échelle. L'AMA a depuis pour mission de veiller au respect du Code mondial antidopage. C'est un document référence qui harmonise les règles entre tous les pays et c'est l'AMA qui publie chaque année la liste des substances interdites. Pour ça et pour développer des programmes de recherche, il faut des financements. L'argent vient pour moitié du Comité international olympique, pour l'autre moitié des pays membres. Et un pays a récemment menacé de retirer sa contribution annuelle à l'Agence mondiale antidopage et pas n'importe quel pays. Les États-Unis, 2 700 000 dollars, c'est 7% du budget de l'agence. Une menace qui a fait réagir d'autres pays, pour l'instant anonymes. Ils ont demandé à l'Agence mondiale antidopage de modifier ses statuts pour pouvoir sanctionner et éventuellement exclure les États-Unis des grandes compétitions. On imagine déjà le retentissement d'une telle décision.
Alors qu'est-ce qui motive les États-Unis dans dans cette démarche.
Les États-Unis se disent sous-représentés dans les instances de direction de l'Agence mondiale antidopage. Sous-entendu, on paye beaucoup, nous voulons peser dans la politique. Sous-entendu du sous-entendu, l'AMA n'est pas assez dure avec la Russie, un pays, il est vrai, pointé du doigt pour dopage institutionnalisé depuis plusieurs années. Des athlètes ont d'ailleurs été sanctionnés, des médailles d'or retirées. Certains doivent désormais participer aux compétitions sous bannière neutre. Mais les États-Unis ne s'en contentent pas, ils veulent des sanctions plus sévères. Le président de l'Agence mondiale antidopage ne s'est pas laissé impressionner. Witold Banka menace à son tour, c'était jeudi, en prévenant les athlètes américains. Si votre pays met ses menaces à exécution, les conséquences pourraient être graves. Finalement, hier, il a temporisé en assurant que les athlètes ne seraient jamais, je cite, les otages de jeux politiques. La suite du feuilleton, les 14 et 15 septembre, lors du prochain comité exécutif de cette agence mondiale antidopage.
Toujours de la politique dans le sport. Focus sur l'agence mondiale antidopage avec vous, Alexandre Berthaud. Merci beaucoup.
Et c'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Avec des températures en baisse aujourd'hui, Jean-Michel Golinski.
Une ambiance plus fraîche qu'hier, du nord de la Loire aux régions du quart nord-est, avec ce matin une nébulosité marquée, même des résidus pluvieux des Hauts-de-France aux Ardennes. En journée, le ciel va progressivement s'éclaircir, en premier lieu par les régions de l'ouest. Les températures maximales voisines de 18 degrés près de la Manche vont afficher 20 à Lille, 21 sur le Pays Rennais, 22 sur la Touraine, la région parisienne et la Lorraine. Plus bas, c'est le bleu qui va largement s'imposer après la disparition des entrées maritimes du golfe du Lion. Mais sur le Pays Basque, la grisaille sera plus tenace, en gagnant même cet après-midi le long des Pyrénées, dans des températures proches de celles d'hier, avec par exemple 32 à Lyon, 31 à Toulouse, 29 à Perpignan et Marseille, et 28 sur la Corse.